Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Chronique juridique avec Nadia Boumefta. Bonjour, Nada. Nada, est-ce que Nada est là? Allô, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Nada.
Bonjour,
alors,
messieurs.
Alors, un massacre qui était planifié et dans une école secondaire, ça fait réagir pas mal de gens aujourd'hui. Donc, c'est assez rare, j'ai l'impression qu'à la Chambre de la jeunesse, là, on traite des dossiers de complot.
En fait, c'est exactement le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, ces accusations-là de complot et de menaces qui ont été portées contre des adolescents de 15 ans qui avaient une liste de gens qu'ils voulaient cibler, qui prévoyaient utiliser vraisemblablement des explosifs, probablement aussi des armes à feu. Donc, on voit quand même une menace très claire et sérieuse envers d'autres collègues de classe qui ont été stoppés avant de commettre les faits, mais se retrouvent quand même accusés devant les tribunaux jeunesse en criminel et ce, de complot, qui est en soi de se mettre tous d'accord, en fait, une ou plusieurs personnes, de commettre une infraction, et on parle de complot, même si l'infraction qu'on planifiait faire n'a pas été commise. Ici, on comprend qu'ils ont été arrêtés à temps, et Dieu merci, on va le dire comme ça, et on n'a pas subi, on n'a pas vu de conséquences de ces actions-là, mais on comprend quand même que ces jeunes-là se sont arrêtés sur des choix, entre autres, d'utilisation de certains outils, cibler des gens, et on comprend que même leur matériel électronique aujourd'hui ont été saisis pour voir quelles ont été probablement leurs conversations, si ça a été fait par les réseaux sociaux ou via texte message. Tout ça sera ressorti. Est-ce qu'il y a eu des photos, des recherches Internet qui ont été faites également? On verra ce que la preuve nous révélera quant aux détails de ce complot-là. Mais même si l'infraction n'a pas été commise, oui, on peut être accusé au criminel. Et comploter avec quelqu'un, ça peut se faire de plusieurs façons, en conseillant, en encourageant ou en aidant la personne. L'exemple le plus clair que je pourrais vous donner, c'est par exemple, Mario, je vous dis, OK, on va aller faire un dépanneur ensemble. Je vais t'aider à te trouver un kit pour te camoufler, pour passer sous le radar des caméras. Même si je n'y vais pas avec vous, j'aurai commis le crime de vol également et on m'accusera de complot le cas échéant, si jamais on a la preuve pour me relier à tout ça.
Mais dans le cas des jeunes, quand même, on semble dire, je disais les reportages là-dessus dans le journal, on semble quand même dire qu'on a, comment je dirais ça, on a trouvé des preuves physiques, là, c'est-à-dire que c'est pas juste des paroles ou des écrits, mais c'est quoi? C'est qu'ils auraient acheté du matériel, c'est qu'on avait, donc qui donne une indication encore plus forte là, de l'intention de poser un geste, que c'est pas une joke ou une lubie, là.
Oui, tout à fait. C'est important de le soulever parce que ça, c'est le type de défense qu'on peut voir arriver, donc de plaider que c'était une blague entre copains, qu'on rigolait, qu'il n'y avait rien de sérieux. Mais évidemment, avant de porter les accusations, le DPCP a le même fardeau, hein, que ce soit en jeunesse ou aux adultes, c'est hors de tout doute raisonnable. Et avant de porter les accusations, il faut quand même avoir suffisamment de preuves. Et effectivement, dans ce cas-ci, potentiellement, des éléments de preuve physiques. Donc, si les jeunes ont magasiné, fait des commandes en ligne, reçu, par exemple, des choses par Internet. Et ça, hein, même si on n'est pas capable de retracer le fait que c'est eux-mêmes qui ont fait ces achats-là, si ça a été retrouvé en leur possession, on peut très certainement utiliser ça comme preuve circonstancielle. Et par la suite, on comprend que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on a même saisi les appareils électroniques, probablement pour aller rechercher un peu plus de détails, de finitions autour de cette préparation-là, de complot-là, et voir aussi comment chacun d'entre eux en sera impliqué. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, même si un d'eux n'a fait partie, par exemple, que d'une conversation Messenger où il envoyait des thumbs up, par exemple des pouces en l'air, il encourageait ses amis à en faire plus, ben lui aussi peut se retrouver dans le même bateau au niveau de l'implication, même si à la fin de la journée, par exemple, c'est pas ce jeune-là qui avait effectivement en possession les pétards, par exemple, ou les armes. Et là, on soulève évidemment les circonstances de société actuelle, cette augmentation de présence d'armes à feu et entre les mains de nos jeunes. Donc, à suivre là-dessus, et j'espère que lumière sera amenée si jamais on a retrouvé des armes de ce type-là entre leurs mains sur la source de celle-ci.
Quel sujet que ton prochain, un accusé qui risque une lourde peine pour un dossier d'agression sexuelle dans un contexte conjugal?
Oui, encore une fois, un sujet qui est très important et que je me fais vraiment un point d'honneur de souligner devant tous et toutes là, quand on parle de matière d'agression sexuelle, de victime, qu'on soit marié, qu'on soit conjoint de fait, peu importe notre statut, notre état civil avec la personne avec qui on est, ou même le contrat qu'on a signé avec elle, le consentement demeure le centre le plus important et la question qui va être en litige lorsqu'on parle d'agression sexuelle. C'est pas parce qu'on est marié avec quelqu'un qu'on adhère à un contrat sexuel sans avoir accès à cette possibilité-là de refuser finalement. Et je tiens à le mentionner parce que parfois ça peut être pour des questions idéologiques ou culturelles, on peut avoir cette impression-là que ben voyons donc, c'est ma femme, c'est mon mari, ça fait partie du contrat de mariage d'avoir des relations sexuelles.
Mais c'est ça, je pense que bien des gens vont réagir à cette nouvelle-là en disant, mais voyons, quand on... Quand on accepte le mariage, est-ce que c'est pas, sur le plan sexuel, un consentement à vie, là?
Ben jamais, il faut jamais l'interpréter de cette façon-là, au grand jamais. Et on le voit, entre autres, par ce cas-là, où il a été déclaré coupable, le mari, dans cette situation-là, contre sa femme.
Est-ce qu'on a des détails sur les circonstances?
Oui,
pourquoi elle a porté plainte?
Oui, en fait, les détails du pourquoi elle avait porté plainte, ça, je ne les ai pas, par contre, mais on comprend que la dame est allée quand même de l'avant, a témoigné devant les tribunaux et a témoigné de façon suffisamment, en fait, sincère, déclarée par le tribunal, qui, en contrepartie, encore une fois, c'est des versions contradictoires, avait la version du mari, l'accusé dans cette affaire-là, qui lui niait le tout, il ne semblait pas comprendre et plaidait effectivement ben, qu'ils avaient une relation de couple et que, selon lui, là, il n'y avait pas de refus de son côté, alors qu'elle mentionnait avoir refusé, et même de façon claire, certaines relations sexuelles qui finalement ont eu lieu. Et dans ces cas-là, ce n'est pas parce qu'on est marié que c'est effacé, et ce n'est pas parce qu'on est marié non plus, ou on est en relation là, de couple, que les victimes n'ont pas de droit de parole et ne peuvent pas aller porter plainte. Ça, je tiens vraiment à le mentionner. N'hésitez pas à demander de l'aide, à être encadré, entouré. Ça peut être très difficile quand ça concerne, évidemment, quelqu'un avec qui on partage notre vie, notre lit, vraisemblablement, mais nos droits quand même, le consentement demeure important. Quand c'est non, c'est non.
En terminant, tu veux te réserver à demain l'analyse du texte de ce que sera ce projet de loi là, qui interdirait aux manifestants là, de se présenter aux abords des écoles ou des hôpitaux. Mais un commentaire général sur ce que tu vas surveiller, ce que t'attends, ce à quoi il faut faire attention dans la rédaction d'un tel projet de loi?
Oui, c'est très intéressant comme sujet, Mario, et j'ai bien hâte de lire les détails, là, les peaufinements de cette loi-là qui sera vraisemblablement adoptée demain. On comprendra le contexte actuel, on reste quand même en pandémie, en situation d'urgence, et on parle là et on cible sans cibler non plus, parce qu'on utilise les bons mots, évidemment, dans cette loi-là. C'est dans un cadre général où on interdit à tout le monde, donc on n'est pas discriminatoire en ciblant, par exemple, en fonction d'une idéologie ou d'une autre. Ça, on va en traiter un peu plus en détail demain sur qu'est-ce qui aurait pu être discriminatoire dans cette loi-là pour protéger l'accès à des services de base, des droits de base, comme l'éducation pour les mineurs et des services essentiels comme la santé. On va comprendre qu'ici, la loi va chercher à apporter un périmètre de sécurité et j'ai bien hâte de voir aussi qu'est-ce que cette loi-là va venir amener pour justement éviter que cette distance-là soit non respectée. Est-ce que les policiers vont entrer en ligne de compte, les autorités seront demandées dans les périmètres? Est-ce qu'il y aura des conséquences? Donc, à voir demain, là, on pourra lire plus en détail quel sera ce projet de loi et je pourrai me prononcer là, sur cet effet-là également que cela aura.
Merci beaucoup, Nada. À demain.
À demain, messieurs. Au revoir.